Bonjour, je suis Anne Boucharna, bienvenue dans Les Grands S'amusent, transmission intergénérationnelle sur Aligre FM. La folle histoire du rock avec Jean-Michel Espitalier ce soir. Jean-Michel Espitalier, poète, écrivain, performeur, scénariste, batteur. Vous avez intégré fin 2006 le groupe punk rock Presley comme batteur et monté votre premier groupe à l'âge de 12 ans baptisé The Reaction, puis The Chroniqueuse, dont la première chanson s'intitulait « I should like to go to France ». Nous allons parler de votre livre, du rock, du punk, de la pop et du reste. Livre qui swing, qui pulse, cultive, ravit, émeut. C'est un merveilleux voyage dans l'univers musical du rock, de son et de votre histoire. L'écriture y est rythmée, vivante, toute sauf raplapla. Les listes de mots défilent, les jeux de répétition vous grattez vite. Vous appartenez à la pop culture, passionné de rock, de poésie et de tout plein de sujets. Un livre bohème qui enchante et sourit, un livre qui part de votre expérience personnelle, vous, le grand fan des Beatles. Chaque discothèque est un cadastre personnel et rien qu'à soi d'un coin de cette folle histoire, dites-vous dans votre livre. Bonsoir Jean-Michel Espitalier.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous avoir. Alors la première question des grands s'amusent, que vous ont transmis vos parents ? Ont-ils fabriqué un drôle de loustique ?
sans doute parce que ma mère était très, elle revendiquait un caractère de fantaisie, et je crois qu'elle était ce qu'on peut appeler quelqu'un qui était dans la dépense philosophique.
Ouais. C'est-à-dire
qu'en fait, elle vivait pour jouir et elle jouait beaucoup au casino.
Ouais.
Elle aimait les jeux, elle aimait jouer.
Et elle aimait la vie.
elle aimait le hasard et les prises de risque. Parce que quand on joue, il y a toujours le risque de perdre. Et ce qui fait la jouissance du jeu, c'est que on veut gagner, mais on peut perdre.
Mais on peut perdre. Ouais.
Voilà, donc je pense qu'elle a transmis ça. Après, évidemment, il y a des choses plus souterraines.
Oui. Il y a tout plein de choses. on arrive dans votre livre. Donc on ouvre la page les premières pages de votre livre. Everybody seems to be ready. Are you ready? Yeah. So let me introduce you. Et là, vous partez sur une liste de groupes de rock, qui faisait partie ou qui fait toujours partie de votre discothèque, c'est ça?
Ouais. J'essaie au début de montrer un peu. C'était un peu. Il y a une sorte de métadiscours, c'est-à-dire qu'effectivement je liste, je fais exploser sur quatre pages, il y a plusieurs centaines de noms de rock ou de rockers, mais pour montrer aussi que le rock, mais comme la littérature, mais le rock c'est des milliers de
et
groupes,
oui.
etc. et
ouais.
qu'on n'en fait jamais le tour.
Jamais le tour, donc vous n'en avez toujours pas fait le tour.
Non, tant mieux.
Au commencement n'était pas le verbe, vous dites, non, au commencement était le rythme. Donc c'est le rythme, c'est partout.
C'est-à-dire que le rythme, évidemment, ça concerne en premier lieu le rock, ou le rock concerne le rythme, mais c'est vrai que cette question du rythme, elle est... Alors évidemment, je me suis beaucoup amusé à imaginer comment le rythme avait été inventé par l'homme, dans la nuit des temps, mais c'est vrai que la question du rythme, elle est aussi importante dans la littérature et dans la poésie, parce que le rythme, c'est vraiment ce qui revient, c'est ce qui se répète, et la répétition, c'est quand même l'un des modes d'emploi les plus sûrs de la musique.
Mm-hmm.
On va commencer par Bach, plus tard Ravel, le Boléro de Ravel, qui est quand même une œuvre tellement connue. Et puis évidemment, le rock, ça se répète aussi parce qu'on est dans des grilles de composition qui sont des compositions qui sont faites aussi pour la danse.
Ouais,
donc pour faire danser les gens, en fait, il faut que ce soit régulier, voilà.
Ouais. Oui. Et puis au-delà de ça, tous les sons, alors vous faites il y a une citation de Harry Hop, tous les sons que vous pouvez entendre, c'est du rythme, baiser, c'est du rythme, la terre qui tourne, c'est aussi un rythme, chacun de nos pas, chacun de nos battements de cœur est un rythme. Donc c'est au-delà de,
bien sûr,
au-delà de la musique.
Et puis ça commence avec les battements de cœur de la maman. Le rythme, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental.
Et puis vous faites une analyse sur qui est assez géniale, je trouve, sur le rythme, sur les peurs finalement, parce que le rythme fait que voilà, on est calé un peu dans un temps et que ça.
Le rythme qui console et qui rassure, c'est aussi. Alors ça, c'est très propre à l'homme et c'est très fondamental. C'est très puissant et c'est très profond. C'est que Gilles Deleuze a écrit un texte assez connu là sur la ritournelle, hein,
oui.
Et qui montre bien, c'est pas le premier, mais Freud parle beaucoup de ça aussi, que la névrose c'est à la fois ce qui patine, c'est-à-dire qui se répète, mm-hmm. Mais pour sortir de la névrose, il faut aussi répéter.
Il faut répéter, hein,
c'est donc les chants, les prières, les récitations, etc.
Oui.
C'est quelque chose, la répétition, les mantras, enfin des choses, oui. Aussi qui peuvent devenir hypnotiques. Hein.
Oui.
C'est la répétition, quand on chante à son enfant, fais dodo, quoi, mon petit frère, etc., c'est le fait que ça revienne et que ça se répète, qui va le rassurer.
Et que c'est rassurant, ouais. Ouais. Oui, et c'est plus facile à retenir, c'est
oui,
doux,
et puis il y a vraiment quelque chose qui a à voir avec le battement de cœur, quoi, donc
ouais.
C'est quelque chose qui nous est propre. Quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc on va parler des origines du rock, donc il y a plusieurs origines, il y a le blues, donc, qui vient des États-Unis, il y a la musique classique. Il y a le côté religieux, le protestantisme qui va avec le capitalisme et les origines européennes et tribales africaines aussi. Voilà, donc ça fait pas mal de choses. Vous dites le rock fait partie du patrimoine du patrimoine comme la musique baroque ou les châteaux de la Loire. C'est assez vrai. Ben, hein.
Aujourd'hui oui, parce que oui. Le rock aujourd'hui a 70 ans.
Ouais.
Le premier 40. Enfin, en fait la naissance du rock and roll, elle est évidemment soumise à polémique et à querelle de bénédictin, mais c'est grosso modo 54 à peu près, quoi. Donc ça,
ouais.
fait 70 ans,
ça
quasiment.
Fait déjà,
quoi, voilà.
Ça fait déjà un petit paquet de temps, ouais. Donc effectivement, aux États-Unis, donc on était en 1950 et quelques, on était dans une Amérique puritaine. Donc,
oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, on pense toujours que, bon, évidemment que. Tout commence dans le delta du Mississippi avec le blues,
ouais.
Les premiers blues. Mais le blues,
ouais.
Vient d'où? Alors, il y a évidemment des mélanges. Le rock, c'est quand même le métissage. Mais c'est aussi le métissage esthétique. Et en fait, il y a une rencontre, ou il y a plusieurs rencontres entre les musiques tribales africaines. Parce que mm-hmm. tous les esclaves, en fait, qui ont été déportés, notamment dans le sud des États-Unis, en fait, ils viennent avec leur culture.
Ouais.
Et notamment des jeux rythmiques, mais aussi... Je parle notamment de la kora malienne. Quand on écoute aujourd'hui la kora malienne, en fait, on entend des prémices de blues, quoi. Ce qu'est le blues, avec cette note diminuée, enfin, ces demi-tons, etc.
Mm-hmm.
Donc, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, il y a les musiques européennes folkloriques, hein, notamment celtiques, enfin, anglo-saxonnes.
Ouais.
Et on a là, et tout ça commence à se mélanger. Et peu à peu naît une sorte de troisième voie qui est la naissance du rhythm and blues et du blues, quoi.
Ouais, d'accord. Et vous dites aussi que voilà, plus on est dans quelque chose de rigide, plus voilà, cette musique va s'installer dans quelque chose de contestataire.
Au départ, le blues, en fait, il est condamné par l'Église, alors
oui.
qu'il naît aussi du gospel, en fait.
C'est toujours des...
Les églises noires, en fait, elles chantent...
Elles chantent du gospel.
Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, c'est des chants,
ouais.
sacrés,
ouais.
Mais avec ce rythme africain. Enfin,
c'est
voilà,
ça.
Il y a des... En tout
ouais.
cas, il y a... Et c'est vrai que malgré tout, l'Église américaine, en fait, condamne le rock'n'roll, parce qu'au début, elle y voit une marque de Satan.
Oui. Ouais, donc c'est
parce que c'est sexuel, parce que
c'est sexuel,
corporel,
c'est ça. Il y a le côté complètement érotique,
la transérotique, en fait, quelque
ouais.
chose de ouais.
Quelque chose d'excessif, de sauvage, quoi. De,
oui,
de
et
presque,
puis venant aussi
ouais.
des noirs, c'est alors ça, c'est le tabou suprême.
C'était aussi.
D'ailleurs, Elvis en 54, quand il émerge.
C'était un noir français, enfin, c'était.
On l'appelle le nègre blanc.
Le nègre blanc, ouais. Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc, ouais. ça, c'est le péché suprême.
Ouais, ouais.
Nègre, et c'est pas blanc. Enfin,
il y a un truc qui n'allait pas, quoi.
Il y a un oxymore, enfin, il y a quelque chose de scandaleux, quoi.
Donc, à la fois, c'était ce blues-là, c'était. Ça venait de l'église, de l'intérieur, et en même temps, c'était condamné par l'église aussi.
Ouais,
donc,
ouais.
c'était complètement ces deux choses.
Ouais. Oui, et puis ça va durer parce que je raconte ça dans mon bouquin. Par exemple,
ouais.
plus tard, il y a des groupes, notamment des groupes anglais, Black Sabbath par exemple,
ouais.
Qui, lors de leur première tournée aux États-Unis, ils font quelques dates dans le sud, et en fait, il y a des radios locales et des journaux en fait qui conseillent vivement aux jeunes de pas assister à ces concerts, parce que Black Sabbath, ce sont donc forcément des satanistes, et les Beatles, on connaît, l'histoire est assez connue. Le jour où Lennon dit que les Beatles sont plus populaires que le Christ, il se trouve qu'ils partent aux États-Unis quelques semaines plus tard, et il y a le Ku Klux Klan qui est là et qui veut interdire leurs concerts. Il y a des autodafés de leurs disques, etc. Ouais. Donc ça reste encore, enfin, la question du religieux. Ou plutôt la question du rock'n'roll dans la religion puritaine,
ouais.
elle se poursuit jusque dans les années 70, même 80.
Ouais, ouais. Donc ça a été compliqué de. Et justement, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le rock? Pourquoi est-ce que c'est
alors,
ça qui vous.
Ouais. D'abord, ce que je veux dire, c'est que le rock, c'est vraiment au sens large. Hein.
Ouais.
D'ailleurs, le titre le dit un peu, hein, punk,
oui,
pop,
punk, du punk,
voilà,
de la pop et du
trip-hop,
reste.
Ouais. L'électropop, etc. Enfin, c'est vraiment toute cette galaxie en fait, qui est née du blues et du rock'n'roll originel. Mais alors, tout ça a évidemment débordé. Ben, moi, ce qui m'a. D'abord, il y a une question de génération. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec ça. Quoi. C'est la bande-son de ma jeunesse et encore aujourd'hui. Ouais. J'étais à un concert hier soir. Je vais souvent en concert, j'écoute beaucoup de musique, c'est quelque chose qui me porte, et j'écoute de la musique qui vient de sortir il y a 15 jours, ou des trucs qui ont 50 ans. Enfin, moi, je suis toujours un vieux fan des Beatles, et j'écoute toujours les Beatles.
Toujours, ouais.
Pas en boucle, mais je les écoute très, très souvent.
Ouais.
Mais, je sais pas, la musique, c'est quand même quelque chose qui est très puissant, parce que ça parle vraiment, enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose qui parle vraiment à nos sens, de manière très profond. Il y a une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Nietzsche. D'ailleurs, je le cite pas mal dans mon bouquin. Il dit que l'oreille est l'organe de la peur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, il veut dire que l'oreille, en fait, c'est l'organe de sensations très très profondes et très archaïques, hein, qui parlent un peu presque au cerveau reptilien. Quoi.
Mm-hmm.
Et c'est vrai qu'écouter quelque chose. D'ailleurs, on le voit bien aussi dans sa dimension mnémonique. On écoute un 45 tours en 68 ou en 70, on le réécoute 40 ans après, c'est la Madeleine de Proust, en fait.
Ouais.
Tout de suite, il y a plein de choses qui reviennent, y compris des goûts, enfin, des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose de très puissant qu'on ne retrouve pas avec le cinéma, avec l'image, en tout cas, ou avec la littérature. Moi, j'adore la littérature parce que je suis écrivain, mais il n'y a pas ce même pouvoir de mémoire.
Ouais,
c'est presque de conservatoire d'émotions et sensations.
Ouais.
Moi, il y a des morceaux, je sais pas, les trucs que j'écoutais au lycée, je les réécoute, mais j'y suis, quoi. Je suis au lycée, je revois la petite amie avec qui j'étais.
Il y a toute l'histoire, tout le passé qui défile. Ouais.
Mais c'est très fort, c'est très puissant, c'est physiquement très puissant.
Ouais, c'est rigolo ça. Et puis c'est aussi toutes les névroses qui peuvent ressortir, parce que c'est de la musique assez complètement qui part dans tous les, enfin non,
oui,
qui part dans tous les sens, qui
ça parle vraiment au sens, quoi,
qui parle des, ouais, qui, ouais, qui parle, ouais, des tripes. Donc on parle de trance aussi, de
ouais,
ça ouais, vient de culture aussi, il y a des sectes Aouka là qui se livrent à des rituels de trance collective.
Alors, dans un très beau film de Jean Rouge, enfin un film
de Jean Rouge qui était un anthropologue, donc ça.
Mais c'est-à-dire que là, ça montre bien les origines, enfin à la fois africaines. Donc on voit des scènes de trans collective, de cette secte des Aouka, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis
c'est au Ghana, je crois, non?
Au Ghana, peut-être. Ouais. Accra.
Accra,
dans quel pays c'est?
Ouais, c'est au Ghana, vous dites. Enfin, c'est dans votre livre, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Et donc, on a bien ça. Et puis, on a de l'autre côté, justement, j'y reviens, tout ce folklore, notamment anglais, qui tout ça se mélange. Et c'est pour ça qu'évidemment, le rock, c'est pas de la musique africaine et c'est pas non plus de la musique européenne. Il y a vraiment un mix des deux. Ça a vraiment inventé quelque chose.
Ouais. Il y a des origines, protestantes, il y a un peu de tout.
Et y compris après, plus tard, la musique classique, parce que justement, j'ai voulu un peu en parler, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui se revendiquent, d'ailleurs. Jack Bruce, le bassiste, il était dingue de Bach, par exemple, de Jean-Sébastien Bach.
Et oui, c'est rigolo.
Et des exemples, il y en a des centaines, quoi. Alors, je parle même pas du rock progressif, enfin, du prog-rock, qui s'est beaucoup inspiré. Je pense notamment à un groupe comme Yes, qui s'est beaucoup inspiré, il le disait, de Stravinsky, qui reprennent des morceaux de Brahms, etc. Enfin, qui reproduisent ça. Mais donc là, c'est très explicite. Mais même, on entend Sting, par exemple, lui aussi, il adore Bach. Donc, il y a tout ça, et c'est ça qui m'intéresse dans le rock, c'est qu'en fait, il y a quelque chose, c'est que où tout est possible.
Tout est
possible, on ne sait jamais ce qu'on va écouter.
Ouais. On pioche un peu partout.
Des mélanges, on mélange tout,
mélanges,
on bricole, on fait
une grande
collage,
liberté.
Avec une grande liberté.
Une grande liberté. Ouais. On va faire une petite pause musicale, alors je vous laisse annoncer le morceau des Beatles que nous allons écouter. sélectionnés.
Alors, nous avons sélectionné
pour vous, I want you, chers auditeurs.
I Want You des Beatles. Donc, c'est sorti sur l'album Abbey Road. Donc, ouais. Abbey Road est sorti en septembre 69. C'est le dernier album des Beatles.
D'accord.
Pas le dernier paru parce qu'il y a un Let It Be qui est sorti en 70, mais les Beatles étaient déjà séparés. En tout cas, c'est la dernière fois que les Beatles travaillent ensemble. Et I Want You, qui est un morceau que j'adore, notamment pour le riff de guitare qui revient à la fin. Mais c'est aussi singulièrement, c'est le dernier morceau que les quatre ont travaillé ensemble au mois d'août 69.
Ok, et ben c'est parti, on l'écoute.
Thank you.
c'était les Beatles, I Want You. Merci pour ce très beau morceau de musique. Alors, Jean-Michel Espitalier, c'est quoi être un bon rocker?
Alors, un rocker, évidemment, on a toujours l'image de Santiago cuir, voilà, mais je pense que c'est plutôt comment on vit dans cette idée du rock et dans cette exigence et dans ce désir. Je pense que c'est... Alors, rock aussi, j'y reviens, rock-pop. Enfin, moi, je pense que je suis plus pop que rock, je suis plus Beatles que Stones, par exemple.
Ouais.
Le morceau qu'on vient d'écouter est un morceau de Lennon, donc on dit que Lennon était le plus Rolling Stone des Beatles. Voilà, je suis plus tourné vers l'Angleterre, plus arty, plus... voilà,
ouais.
Quelque chose de plus... De plus esthétique, de plus esthétisant.
D'accord.
Mais comment on vit? Bah, moi, j'en parle un peu dans le livre.
En fait, c'est vrai que moi, ça m'a donné des clés de lecture de la vie, et puis surtout des façons de me comporter dans la vie. Je te dis, il y a toujours ce rapport à la fantaisie, à la liberté, ce rapport à la dépense, hein, au sens de Georges Bataille.
Aux excès aussi.
Et aux excès.
Aux excès,
ouais, mais ça peut être des excès.
À la jeunesse.
Alors, la jeunesse, c'est pas, parce que justement, j'en parle beaucoup, ce mythe de la jeunesse, évidemment, qui a accompagné la naissance du rock, parce que c'était aussi l'invention de la jeunesse, c'était l'après-guerre, enfin, les années 50-60, les 30 glorieuses, etc. Donc, effectivement, de voir surgir des petits jeunes, souvent issus de classes sociales défavorisées, voire très défavorisées, qui prenaient le pouvoir et qui, comme les Beatles, en 65, ils ont 22-23 ans.
Ouais.
Ils sont multimillionnaires.
Ils venaient de je ne sais où.
C'est le sous-prolétariat de Liverpool.
Ouais, c'est ça.
Et en 65, ils sont décorés par la reine. Enfin, voilà, donc, il y a des espèces de success story hyper rapides.
Mais en même temps, c'est rigolo, c'est que success story, parce que finalement, c'était quand même... c'était pas le but de devenir millionnaire.
Là, ils sont rattrapés par le capitalisme.
Le
capitalisme se rend compte que c'est de ce côté-là. Et le capitalisme est important aussi parce que c'est la diffusion à grande échelle du rock. Hein.
Oui.
Donc les deux se nourrissent en fait, et se côtoient. Mais voilà, je pense qu'il y a cette intrusion de la jeunesse qui fait la révolution. Mais là, c'est la révolution esthétique. Mais on sait très bien que cette révolution, la révolution rock, c'est elle qui a été la mise à feu de la révolution des mœurs des années 60.
Quoi. Ouais. Alors vous dites, là, vous, c'est plutôt le rock anglais ou la pop anglaise, c'est l'Angleterre d'après-guerre qui était vraiment dans un puritanisme et qui était un petit peu triste, un peu glauque, quoi. Donc, en fait, tout le rock, voilà, s'est construit un peu là-dessus, sur ces bases un peu doc.
C'est-à-dire que l'Angleterre de l'après-guerre, elle est très pauvre et puis elle a été sévèrement bombardée, les grandes villes notamment, et notamment Liverpool, puisque John Lennon, qui est né le 9 octobre 1940, il est né au cours du grand bombardement de Liverpool. Donc en fait, c'est aussi des gamins en fait qui naissent dans cette,
qui
grandissent
dans
ce souvenir-là, quoi, de la guerre récente. Et puis l'Angleterre est un pays pauvre. Elle commence à perdre ses colonies, l'Inde en 47, je crois, ou 48. Et puis c'est une société à deux vitesses. Alors évidemment, on le retrouve encore aujourd'hui. Il y a à la fois, enfin, quand on va à Londres, on peut croiser des gens hyper coincés, en fait, très chic, très chapeau melon, etc. Et à côté, des gens totalement distraits, et tout ça cohabite.
Donc il y a
quelque chose, moi qui m'a toujours beaucoup séduit dans ce pays, où on peut trouver, j'ai des souvenirs dans la King's Road à l'époque des punks, on pouvait voir se balader une fille qui était pleine de piercings, totalement distraite, avec une choucroute de 50 cm sur la tête, au bras de sa vieille tante ou sa vieille grand-mère, qui était vraiment la vieille anglaise style Agatha Christie.
Mais tout ça cohabitait très bien
voilà,
ensemble.
Ça marchait très bien.
Il n'y a
pas de scandale. Et donc je pense qu'il y a aussi cette espèce de liberté chez les Anglais, qui m'a toujours fasciné. Parce que tout est possible, y compris dans les looks.
Ça. Il n'y a pas de tabou.
Il n'y a pas la cérébralité française. Je pense que c'est un peu ça, la dichotomie. C'est qu'en France, il y a... Finalement, la révolution des mœurs, elle a commencé avec les outils français, c'est-à-dire quand même des choses beaucoup plus intellectuelles, la politique, enfin le marxisme, le marxisme, etc. Et puis il y avait l'époque de Saint-Germain-des-Prés, le tabou, etc. Mais là, c'était plutôt quand même les classes aisées, hein, c'était l'enfant de la bourgeoisie.
Ouais.
Mais là, le jazz. Voilà, mais c'est quand même beaucoup plus sage, enfin beaucoup plus, et surtout beaucoup plus contrôlé par le cérébral. Il y avait quelque chose de plus intellectuel. Les Anglais sont plus direct, quoi. C'est quand on prend une guitare, on fait trois trucs.
Quand
on voit j'ai vu encore sur internet avant-hier, on a redécouvert des photos des Beatles au Cavern Club. McCartney, il a 17 ans, c'est des gamins, mais on voit qu'ils sont, ils y vont, quoi. Ils n'ont pas ils n'ont pas de surmoi.
Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a moins d'ego.
Il y a moins d'ego et il n'y a pas de complexe.
Ouais, c'est ça. C'est ça qui est rigolo. Et puis aussi, donc, tout ce, on parlait tout à l'heure du mythe de la jeunesse, c'est Kate Richards qui dit dans votre livre, vous le citez, « Quand j'étais plus jeune, je disais, si j'avais 30 ans, si j'arrive à 30 ans, je me tire une balle dans la tête. Tu arrives à 30 ans et tu ranges ton flingue. »
Ben ouais, c'est ça. Ouais, parce que vous savez, quand on veut tous mourir, quand on a 16 ans, on veut tous mourir à 20.
Ouais.
Mais après, quand on a 30, on veut que ça dure encore un peu.
Et
plus ça dure, plus on veut que ça dure.
C'est pas si. Donc, pour revenir à vous, vous avez intégré le groupe Presley en 2006. Qu'est-ce qui vous a motivé là, pour entrer dans un groupe?
En fait, je faisais une performance avec une batterie.
Ouais.
Et, à Montreuil, à la guillotine.
Ouais.
Et comme j'avais pas de batterie, l'organisateur a trouvé une batterie. C'était la batterie du groupe des Presley. Et donc ils étaient là ce soir-là. Ils m'ont vu jouer sur un truc qui n'était pas du tout musical, qui était un truc avec des montages sonores, etc. Et puis après on a discuté. Et puis bon, l'un des guitaristes m'a dit, moi j'aime bien ton jeu. Et moi évidemment je rêvais de remonter sur scène en tant que rocker.
Ouais.
Et donc on a fait une audition et j'ai été engagé tout de suite. Et voilà, on a joué ensemble 7 ans, je ne sais plus exactement, jusqu'en 2011,
ouais.
Donc 2006-2011.
Et donc vous avez...
Et donc c'était reparti sur les concerts, alors c'était pas des vraies tournées, mais enfin on a joué pas mal, à droite à gauche,
ouais.
à Bordeaux, à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Nancy, et beaucoup à Paris évidemment, donc on faisait toutes les petites salles parisiennes.
Donc le côté nomade, le côté...
Ouais. Et puis le retour des galères, de la... et ça c'était génial, et puis en même temps de faire de la musique, en fait, c'est-à-dire c'était
de composer.
Donc c'était les répètes, c'était tout ça quoi, et
c'était génial de retrouver ça. Après donc il y a tout le côté backstage aussi, comment on fabrique, on entretient une rockstar hors champ, les mythologies autour de ça, parce que finalement on essaye de parler des choses finalement qui sont pas très intéressantes en dehors des concerts, mais finalement c'est ça qui crée la mythologie.
Bah oui, parce que j'ai publié un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle de la célébrité, sur cette question de la célébrité en général, mais pas que dans la musique. Et je parle beaucoup de ça, quand finalement le rapport qu'on a à nos idoles, en fait, c'est un rapport qui ne peut marcher que parce qu'elles sont inatteignables.
Ouais.
Et donc on est évidemment d'autant plus fasciné par les séquences dans lesquelles on les voit pas, mais on sait qu'elles existent. Donc le backstage, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va à un concert, on arrive, on voit leurs instruments sur scène, c'est-à-dire qu'on se dit c'est leurs instruments, mais ils sont pas encore là, on sait pas où ils sont, enfin voilà, il y a évidemment toute une série de fantasmes, et puis tout d'un coup ils surgissent, donc ils surgissent de la nuit, donc ils sont là, ça dure 2 heures, et puis après hop, il y a le rappel, et puis après ils repartent, mais ils repartent tout, donc ils sont vraiment dans le hors champ, dans ce hors champ où on peut tout imaginer, et c'est parce qu'ils sont cachés à un moment que, je veux dire, si je croisais Mick Jagger tous les jours en bas de chez moi, à un moment voilà,
C'est quoi un Rolling Stone? C'est Keith Richard qui dit encore dans votre bouquin, quelqu'un qui n'a pas d'attache, un pirate ou un gitan, quelqu'un qui a besoin de partir, de voyager. Voilà,
c'est ça. D'ailleurs, ça parle aussi beaucoup de la question des tournées et puis de la mythologie des tournées et notamment des backstage dans les tournées. Enfin, on a tous vu les Beatles qui débarquaient d'avion, notamment aux États-Unis, les Rolling Stones avec leur avion et leur logo, la bouche avec la langue. Enfin, donc il y a aussi ce mythe des nuits d'hôtel, enfin de tous les soirs on change de truc. Y a Kim Gordon, la bassiste de Sonic Youth, qui a écrit son autobiographie, qui parle bien de ça, des tournées. Enfin, elle dit que c'est génial quand on n'y est pas, mais quand on y est, ça devient complètement dingue parce que c'est crevant. On perd les pédales parce que une nuit on est à Berlin, le lendemain soir on est à Hambourg, le surlendemain on est à Londres, après on est à New York, etc. Et c'est vrai que pour nous qui ne faisons pas ça, ça peut nous paraître c'est fascinant, mais eux ils en ont marre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens qui disent que les tournées, ce qui a décidé de la séparation du groupe.
Oui, c'est ça, de plusieurs groupes d'ailleurs,
parce qu'il y a trop
de promiscuité.
Les Beatles s'arrêtent, par exemple. Les Beatles, ils se séparent en 69, mais ils arrêtent les tournées en 66, parce qu'ils ne peuvent plus travailler.
Et
en plus, à l'époque, le matériel est quand même assez modeste, et depuis 2 ans, les concerts, quand ils jouent, ils ne s'entendent pas jouer.
Il y a
tellement de monde, ils jouent dans des stades, notamment le fameux concert au Shea Stadium à New York, ils ont des 100 watts. Ça paraît comme ça, c'est risible. Et donc ils n'entendent même plus jouer, donc ils se disent c'est et d'ailleurs c'est à partir de la fin des tournées que démarrent ce qu'on a appelé les années studio et où ils sortent leurs plus beaux albums. Rubber Soul est sorti un peu avant, mais Sgt. Pepper, enfin Revolver, Sgt. Pepper, l'album ouais. Blanc et Abbey Road. En fait.
Ouais, voilà,
et c'est là où, vraiment où ils peuvent travailler.
Ils peuvent vraiment travailler parce que sinon, effectivement, c'est
ouais,
trop.
Ouais, ouais, ils enchaînaient les dates et les tournées.
Ouais, ouais, c'est trop, et puis c'est trop d'engueulades.
Et en plus, c'est ça.
C'est pas productif.
Bien sûr, c'est pas du tout productif.
On refait une petite coupure cette fois-ci avec David Bowie. Heroes, c'est parti.
Moi, je souhaiterais que tu manges comme les dauphins. Les dauphins savent nager, bien que rien. Nous quatre ensemble, nous le vaincrons à jamais. On peut être héros pour juste une journée.
C'était David Bowie, Heroes, voilà, donc nous sommes toujours avec Jean-Michel Espitalier pour son livre du rock, du punk, de la pop et du reste, et nous parlons des concerts. Alors c'est André Breton qui, indépendamment de ce qui arrive, c'est l'attente qui est magnifique dans un concert, cette espèce de... de truc là.
Bah, c'est le rendez-vous du... C'est le rendez-vous amoureux, quoi. C'est-à-dire
c'est
que on va rencontrer la personne aimée et, ou en tout cas désirée.
Ouais.
Et il y a quand même un trac avant. Enfin, il y a un trac, il y a quelque chose, il y a une tension, il y a
le
désir, c'est ça. C'est-à-dire que je vais vers quelque chose qui n'est pas encore là, quoi.
Ouais.
Et les concerts, c'est ça. Enfin, moi, je vais assez souvent au concert. Et j'étais hier soir, par exemple. Et c'est vrai, quand on arrive, on se dit, on y est, donc on va le voir, mais il n'est pas encore là. Donc la scène est vide.
Ouais.
On voit déjà ses instruments de musique. Enfin, les instruments sont là, il y a les guitares
qui sont
posées, etc.
Ouais, à se deviner.
Et puis après, évidemment, lumière noire et enfin, la salle s'éteint, ça monte. Enfin, il y a vraiment une tension et il y a quelque chose d'assez érotique là-dedans.
Ouais,
il y a vraiment une montée vers le bah, une montée vers, vers l'orgasme. Quoi.
Vous parlez de crissée sur amoureuse dans votre livre, et puis aussi de messe du matin, du dimanche matin.
Dimanche
c'est
matin,
un peu,
oui, oui.
Voilà,
bah, oui,
voilà, c'est,
ouais,
tout le monde
truc
est à la messe.
Parce
quoi.
Que le rock, c'est un truc collectif. Il ne faut pas oublier que le terme religion, ça vient de relier. Quoi, hein, c'est vraiment ce qui relie. Et c'est vrai. Ouais. Et j'en parlais hier soir, donc après le concert, j'étais avec des amis, et j'ai dit c'est quand même dingue dans les concerts. Tout le monde s'aime. C'est-à-dire que les gens se regardent, ils sourient, il n'y a pas de... Bon, après, il y a eu des bastons, moi j'ai connu des concerts avec des bastons, mais tout le monde est content d'être là, et tout le monde est content d'être ensemble.
Oui, tout le monde est là pour la même
chose.
Ouais.
Et tout le monde s'entend bien.
Ouais. C'est comme une communauté,
Ouais. Alors elle est éphémère, elle dure le temps du concert,
mais
c'est très puissant.
Ouais, c'est génial. Et puis alors, j'adore, il y a un passage dans votre livre que j'adore, je vais le lire là, parce que c'est... Il est là, cher, os, décibel, à portée de la main, totem, doudou, marotte, talisman, meilleur ami du monde, papa, maman, sang, veuve, faire tes devoirs, curé, imam, rabbin, sans va faire ta prière, qui réfléchit notre patrimoine génétique et raconte la version définitive de notre histoire la plus intime. C'est génial. J'adore.
Ben oui, c'est vrai que quand je dis c'est en fait un chef religieux et puis c'est aussi les parents quoi, mais sans l'autorité.
C'est ça
qui est formidable. En fait, c'est un peu l'histoire, c'est un peu la place des oncles et tantes quoi. C'est-à-dire que les oncles et tantes, c'est pas les parents, donc c'est eux en général qui donnent
un
billet.
Peu plus cool.
Même si le gamin il a eu 0 en maths et qu'il s'est engueulé par ses parents, l'oncle et la tante, ils viennent le voir à côté, il dit écoute, pleure pas, je te file 15 euros, etc. Et eux, c'est ça, parce qu'en fait c'est nos meilleurs amis. Alors évidemment c'est une relation qui est une relation fausse, parce que eux ils savent même pas qu'on existe, je dis. Donc il y a aussi un décalage, il y a aussi un malentendu. C'est-à-dire que nous on les connaît par cœur, mais donc il y a aussi cette espèce d'amour déçu, parce qu'on sait que c'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est qu'ils nous connaissent pas,
hein.
Et moi j'ai rencontré Syd Barrett, je le raconte dans mon bouquin,
le premier
fondateur de Pink Floyd en fait, qui était un peu un mythe, et j'ai voulu aller frapper chez lui à Cambridge, et alors je l'ai pas vu, je l'ai vu après dans la rue, je lui ai pas parlé d'ailleurs, mais j'étais terrorisé parce que je voulais pas le rater, c'est-à-dire je voulais le voir. Et en même temps, ça me terrorisait de le voir, parce que je me dis que si je le vois,
je
vais me rendre compte qu'il ne me connaît pas.
Et oui.
Alors que moi, c'est un intime. Ouais.
Oui.
Donc il y a aussi ce truc,
il faut pas aller
trop loin dans le.
Ouais, il y a ce décalage. Donc il faut rester quand même un peu semi-fan.
Il faut une distance. Quoi.
Ouais,
sinon,
ouais. Ouais. Et vous aimez être fan, vous?
Je sais pas si j'aime, mais je crois que je le suis. Si, moi je suis très. Alors fan, je le suis plus comme je suis. Parce qu'en plus. Je parle aussi des fans dans mon lieu, je m'en moque, mais en plus on n'aime pas les fans. Moi j'aime pas les fans. J'aime pas cette idée du fan.
Côté
fanatique,
dévotion.
Mais en même temps, je crois que je pense qu'en tout cas je l'ai été des Beatles à fond, alors qu'ils étaient séparés déjà depuis longtemps. Enfin, ils étaient séparés. Mais c'est vrai qu'il y a un magnétisme. Moi j'ai revu McCartney, je l'avais vu dans les années 80, j'ai revu McCartney il y a 7 ans au Stade de France. Je suis moins fan parce que le Stade de France c'est des gros
concerts,
je suis pas très
peu,
fan, mais bon voilà, je voulais y aller, et quand même je vois arriver quelqu'un qui est un frère, enfin qui est un ami très proche, en fait. Il y a quand même quelque chose, il y a un magnétisme, il y a une espèce d'aura quoi.
Je vois arriver
un Beatles quoi,
c'est pas rien. Et vous évoquez aussi la fin des concerts, circulation d'air frais dans tous les coins du corps et même dans la cervelle, instantanément on a envie de liberté totale, de je m'en foutisse, de frivolité, de tout envoyer promener, de plus aller au bureau le lendemain, enfin etc etc, on part loin quoi.
Je crois qu'il y a ça aussi, c'est que finalement alors c'est peut-être une question de génération, enfin la mienne et les générations un peu plus jeunes, mais je pense qu'on a tous grandi vraiment beaucoup avec ça, et ça nous remet dans une... Enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas parler pour les autres, mais moi, ça me remet vraiment dans une situation, dans un âge, en fait, où j'étais encore dans un esprit rebelle, en fait. Voilà, dans un esprit de vouloir contester. Moi, je ne rentrais pas dans le rang, je rentrais dans le système. Donc, et là, il y a quelque chose, on se dit, mais ouais, finalement, on est dingue. D'ailleurs, je cite un morceau de Talking Heads qui dit ça. Il dit, je rêvais d'avoir une belle bagnole, je rêvais de ci, je rêvais de ça. Et en fait, je suis quoi? Mais qu'est-ce que j'ai un petit boulot, j'ai une petite femme, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Comment tu as fait pour en arriver là, quoi?
Et je dis
aussi, c'est à nous aussi à pas nous laisser maltraiter à ce point, quoi. Par la société, Donc le rock permet ça. Non, on va dans un concert, tout de suite on se dit ouais, mais c'est quand même la vie est géniale. Non, mais demain je verrai, mais j'ai mes impôts à payer, mais je verrai, je les paierai qu'après demain. Enfin, il y a une espèce de liberté, il y a une frivolité quoi. Je pense que c'est très important, la frivolité, parce que c'est C'est la frivolité, paradoxalement, c'est quelque chose de très profond.
C'est quand on est
quand on est frivole, ça va toucher des choses en nous qui sont des choses très très fortes, très puissantes.
Et peut-être que aussi, c'est que quand on en arrive là, on a compris que finalement, il y avait, comme vous dites, toutes les choses un peu plates, mais que arriver à rester frivole là-dedans, c'est pas si facile que ça.
Ouais. Mais je pense que la musique peut nous aider. Enfin, en tout cas, elle nous fait une espèce d'énergie, une énergie heureuse, joyeuse, positive, quoi. Et
très
positive, on en a tellement besoin.
Vous dites le plaisir est révolutionnaire.
Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, parce que c'est vrai qu'on vit dans des sociétés où le malheur a le beau rôle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être malheureux. C'est Gilles Deleuze qui parle de ça, qui dit ça. Il dit qu'en fait, la société nous veut malheureux. Et c'est pour ça qu'il faut résister avec la joie. Et ça, c'est Nietzsche. C'est Nietzsche. Nietzsche dit que ça. Il dit en fait, il faut accueillir la vie. Enfin, il faut dire oui à la vie, et pas non. Il faut dire oui à la vie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'accueillir, quoi.
Donc ce sont l'appétit de liberté, le désir, l'immortalité, le côté mystique de la musique qui vous plaisent comme ça dans...
Oui, c'est tout
ouais,
ça.
C'est ce que vous dites, la liberté, ce côté...
En tout cas, parce qu'évidemment, c'est pas la même affaire d'écouter un morceau chez soi ou dans sa bagnole ou je sais pas où. Enfin,
qu'un concert,
en live, mais le concert valide un peu, le concert nous montre qu'en fait, ce qu'on a écouté, ça existe. Quand on voit une rockstar, des gens qu'on adore depuis des années, puis on les voit en vrai, on dit, mais ouais, en fait, c'est pas du pipeau, ça existe vraiment, c'est vraiment eux qui le font.
Vous dites, dans la musique, je cherche un sens à ma vie, au monde.
Mais oui.
C'est ça, en fait. Hein.
Et justement, cette frivolité, cette énergie. Alors, très physiquement, il y a aussi une énergie du rock, quoi. Alors, même s'il y a des morceaux très lents, mais il y a quelque chose de rapide, enfin, de qui scande, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, sur la question de la répétition aussi, quoi, qui nous console.
Ouais. Vous avez pleuré le 9 décembre 1980 ?
Oui. Qu'est-ce qui s'était passé la veille ?
L'assassinat de John Lennon.
Ouais. C'est vrai que le matin du 9, parce qu'il est mort le 8 au soir, et ma mère est venue et m'a dit, tiens, j'ai entendu à la radio, il y a un Beatles qui est mort, qu'est-ce que tu racontes ? Je crois que c'est John Lennon. Évidemment, j'ai pris la radio. Et alors, ce que j'avais fait le soir, j'écoutais sur les grandes ondes, on entend les radios du monde entier. Et alors, je zappais, j'aurais dû enregistrer ça à l'époque. Et je zappais en allemand, en anglais, en roumain, etc. Donc, toutes les radios. Je crois que c'est les petites ondes ou les grandes ondes, je ne sais pas où on prend plein de radios.
Ouais.
Et j'entendais, donc, il y a beaucoup d'infos, et j'entendais ce nom de John Lennon qui revenait partout dans le monde. Parce que tout le monde c'était quand même l'événement considérable.
Oui, c'était l'événement mondial.
C'était non seulement la fin des Beatles, évidemment, mais c'était aussi la fin des 60s.
Donc ça représentait quelque chose.
Et là aussi, c'est vrai que c'était mon meilleur ami qui avait été flingué.
C'était votre meilleur ami.
Alors que pour moi, c'était non seulement mon meilleur ami, mais il était immortel. Alors il l'est toujours parce que les nonnes. Mais tout d'un coup, il était terrestre et vivant, humain,
condition humaine. Allez, on fait une petite coupure avec Diz, Lo et Ra. c'était Geez Loera, donc un groupe new-yorkais tout récent, hein, qui a quelques...
Début 2022.
Début 2022, album. Voilà, écoutez, qui est vraiment super. Alors, une de vos devises, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est ce qu'on ressent à vous lire. Hein.
Ouais, parce que je pense, ça aussi, je pense que j'ai hérité de l'esprit rock ou pop, en fait, parce que voilà, il faut pas se prendre au sérieux, parce que c'est parce qu'on va tous mourir et puis puis qu'on finira en cendres, bon voilà, et que de toute façon, il y a une vanité de la vie, quoi, et donc tant qu'à être en vie, autant la prendre au sérieux dans ses actes, dans ses actions, dans sa façon d'aimer, de travailler, etc. Mais il faut pas prendre au sérieux ce sérieux-là, quoi. Il faut rester léger.
Il faut rester léger.
Frivole, j'y reviens.
Ouais, c'est ça, frivolité. Et alors, donc, on va parler un petit peu de votre écriture, de vos premiers textes, de votre goût pour la poésie, parce que c'est vraiment ça. Hein, vous êtes en vous lisant là, on découvre en fait votre monde des mots, votre style, c'est un langage décomplexé, désinhibé, aventureux. Enfin, c'est comme si on était une espèce de dépaysement épique. En tout cas, moi, j'adore. Je suis fan.
Merci.
Et c'est vrai qu'on sent que vous éclatez, en fait.
Ben, je pense que ça aussi, je le dois à cette pop culture, enfin voilà, de la mise à distance. Enfin, moi, je pense que quand j'écris mes premiers textes, mais encore aujourd'hui, j'écris autant avec Francis Ponge ou William Burroughs ou Arthur Rimbaud dans la tête qu'avec Frank Zappa, Gong ou les Talking Heads ou les Sex Pistols. Enfin, c'est la même. Et puis ça travaille pareil dans la façon d'écrire. Enfin, je ne sais pas trop par où ça passe.
Ouais.
Ben, c'est par les oreilles, mais pas que. Mais en tout cas, c'est vrai que ça.
C'est des inspirations
ça,
qui.
Ben ouais,
qui,
parce
qui
que
ça. Hyper large.
Moi, je sais que le tout premier livre que j'ai écrit il y a 30 ans, que j'ai publié, je veux dire, qui s'appelle Pont de Frappe, en fait. Donc c'est encore des textes assez classiques. Enfin, ils sont pas classiques, mais espèce de vers libre, enfin voilà, alors que j'écris pas du tout en vers. Hein. Ouais. Mais c'était d'ailleurs un texte, un recueil de textes très, beaucoup plus anciens. Mais je l'ai monté comme un album. Comme 33 tours. J'ai essayé de. Avec plutôt Zappa ou les Beatles, quoi. C'est-à-dire avec des reprises, beaucoup de parodies. C'est ça que je devrais chez les Beatles. Par exemple, sur l'album blanc, il y a deux morceaux qui font 15 secondes, quoi. C'est des espèces de petites virgules. Ouais. Mais en même temps, qui sont géniaux, qui sont très drôles. Il y a un morceau des Beatles qui s'appelle You Know My Name, qui est une sorte de pochade. Enfin, ils parodient tout, les groupes de jazz, en 3 minutes. Hein.
Ouais.
Et ça m'a beaucoup inspiré pour mon propre univers d'écriture, en tout cas. Après, bien sûr que je suis un grand lecteur. Je suis un fan absolu pour les anciens de Céline, de Giono, de Rimbaud, Verlaine, évidemment Baudelaire, les Américains, etc. Mais aussi, je pense que j'aurais pas écrit pareil
si vous aviez pas écouté.
Ouais. Non, la lecture, ça c'est évident qu'on lit beaucoup quand on écrit, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que le rock ou l'esprit rock ou rock pop, etc., ou punk, ça a beaucoup beaucoup transformé mon écriture, ma façon d'écrire.
Ouais. Mais en tout cas, on sent que c'est vous amusez, vous jouez. Et vous, dans les années 80, vous aviez créé la revue Java, une revue littéraire. À propos, moi j'ai lu des revues de mauvais genre, revues qui met les boules. Donc c'était le but, c'était de créer une poésie nouvelle, festive.
Oui, c'était pas de la créer, c'est en tout cas de la repérer et de bon. C'est vrai qu'il y a une génération de poètes qui émerge dans les années 90, le premier numéro de Java, c'est 89, et c'est vrai qu'on a réussi à fédérer tout un tas de nouvelles écritures. Je pense à Nathalie Quintane, Christophe Tarkos, Olivier Cadio, Pierre Alféry, Vanina Maestri, enfin voilà, puis Jacques Sivan, moi, enfin d'autres, et on a vraiment capté cette constellation finalement de nouvelles écritures qui aussi venaient après les avant-gardes. Donc il y avait toujours un rapport à l'expérimental, mais à l'expérimental qui a, enfin, moi c'est mon analyse, en fait, était passé par la case de la pop culture, donc quelque chose de plus léger, de plus superficiel, de plus drôle, de plus rapide, etc., avec aussi une bibliothèque un peu différente. Il y avait aussi
c'est-à-dire
qu'on se revendiquait aussi bien des objectivistes américains, des poètes objectivistes américains, mais aussi de Tintin et Milou ou de Bob Moran, et mélanger tout ça sans complexe, quoi, voilà. Et ça crée des écritures tout à fait nouvelles, qui sont aujourd'hui des écritures très installées, parce que bon, c'est les grands, ce sont tous des grands écrivains.
En tout cas, on sent que le rire, pour vous, c'est hyper important, quoi. à rire.
Oui, oui, mais je pense que c'est aussi c'est la politesse du désespoir. Je pense que aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du sérieux, c'est que le rire, c'est aussi une façon de repousser les échéances.
Ouais, ouais. C'est l'écriture pour vous, c'est quoi? C'est un rapport au passé?
L'écriture, c'est, en général?
Ouais.
Je ne sais pas. C'est en fait, il y a toujours une adresse. Donc, c'est un rapport au monde. C'est un rapport. Alors, je ne sais pas si on représente des choses, mais on écrit d'abord pour soi, je pense. Et puis, c'est quand même assez essayer d'aller éclairer, enfin, d'aller éclairer un peu un coin de l'obscurité dans laquelle on est. Mmh. La littérature, c'est une tête chercheuse, quoi. C'est d'aller capter des choses et les mettre en forme.
Capter des nouvelles choses et des nouvelles façons de...
Oui, enfin, nouvelles ou pas très fondamentales, mais... Bon, moi, j'ai écrit un petit livre qui est plutôt drôle, qui est un petit traité qui est paru chez Aldante il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle 148 propositions sur la vie et la mort.
Ouais.
Donc, sur la question de la vie et de la mort. Mais traité de manière... Alors, c'est de manière comique, mais très comique, mais absurde. Mmh. Et en même temps, c'est enfin, moi, les retours que j'en ai eus, c'est que les gens, c'est une sorte de rire jaune, c'est-à-dire qu'ils se marrent, et puis en même temps, je dis des choses assez dures sur la question, enfin, assez pas dures, mais des choses évidentes sur notre mortalité. Donc, je joue beaucoup avec ça, sur la question du rire jaune, et je pense qu'il n'y a que l'écriture qui peut atteindre ce genre de choses.
Ouais, c'est enfreindre les règles un peu.
Pour retrouver d'autres règles,
Pour essayer de
se retrouver et de s'y retrouver.
Quoi. Et de s'y retrouver. Ça, ouais. Vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire votre livre du rock, du punk, de la pop et du reste.
Bah oui, parce que c'est aussi un livre qui est très autobiographique. Alors non, je parle de moi, mais aussi quand je parle des Beatles, je parle de moi. Et c'est aussi une sorte de livre bilan, parce que c'est comme une affaire qui m'accompagne depuis tellement de temps, depuis 50 ans quasiment, qu'à un moment il fallait que je... Alors c'était une commande de mon éditeur, mais j'étais content de la faire, mais en même temps j'étais très intimidé parce que je savais que ça serait un livre très, très important pour moi en termes de qui je suis aujourd'hui et de qui je suis devenu.
Grâce à la musique, à cette musique, comment vous êtes construit. On arrive déjà à la fin de l'émission. Est-ce que vous auriez un message pour les jeunes? Pour les plus jeunes,
écoutez de la musique. Écoutez de la musique.
Alors voilà, vous avez déjà quelques idées de acheter le. Alors lisez justement ce livre de Jean-Michel Espitalier qui déchire, un auteur qui groove, qui splash, un gitan des mots. Merci beaucoup Jean-Michel Espitalier.
Merci Anne.
J'ai passé une heure vraiment très 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 sympa avec vous. L'histoire du rock continue avec de nouveaux groupes jeunes, talentueux, imprégnés de 60 ans de culture rock. À la fin de votre livre, vous proposez des conseils de lecture. Et puis voilà, il y a plein d'idées de groupes, de musique à écouter. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Et puis à bientôt sur Aligre FM. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes.